Bonjour, c'est Vincent de Dienne et vous allez écouter Pop Pop Pop. Sauf si vous n'aimez pas Antoine de Caunes ou sauf si vous êtes décédé. Mais sinon, vous écoutez Pop Pop Pop.
Pop-popienne, pop-popien et tous les autres aussi, bonjour. Amis carte vermeille, montez le sonotone ou approchez-vous du poste, voire les deux si vraiment vos portugaises sont ensablées, cette émission est faite pour vous. Pop-pop-pop s'intéresse aujourd'hui aux vieux, c'est-à-dire à nous tous, vu qu'on est toujours le vieux de quelqu'un ou qu'on est appelé à le devenir à plus ou moins brève échéance. Oui, saisissez vos déambulateurs, amis Kakoshi, mais venez à nous comme Lagardère va dans le mur, car c'est aujourd'hui la fête. D'autant plus que les vieux dont nous allons parler ne correspondent pas tout à fait à l'image qu'on se fait ordinairement de cette vénérable partie de la population, épuisée par des années de dur labeur, désenchantée, les illusions au vestiaire, se préparant pour la suprême échéance, paraffant avec plus ou moins de résignation la sinistre convention obsèque qui évitera à leurs descendants d'avoir à choisir entre palissandre et sapin ordinaire pour leur ultime sortie en boîte, cette sortie-là étant encore plus que les autres définitive. Non, nos vieux à nous, ils sont bien décidés à emmerder le monde jusqu'au bout et à lui faire comprendre que si la valeur n'attend pas le nombre des années donne encore plus de valeur au plaisir de bousculer le prétendu ordre des choses. Bref, que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes et que c'est encore mieux si les vieux pots, on les met à chauffer sur de vieux fourneaux.
France Inter. Pop, pop, pop. Antoine de Caunes.
Bonjour Wilfried Loupanot.
Bonjour.
Les vieux fourneaux, c'est vous, enfin le scénario.
Oui.
Bienvenue dans Pop Pop Pop. Je vous présente à mes côtés ma vieille à moi, Charline Roux.
Bonjour Antoine.
Big
bonjour
up, aussi. Charline.
Enchantée.
Au menu donc de Pop Pop Pop, une spéciale vieux. Avec nous également tout à l'heure Fabrice Marouka, le créateur de la série La Minute Vieille.
Il y en a un qui a demandé un silo, il s'est fait enculer.
Ça, ce sera en deuxième partie d'émission.
Quel programme.
Soyez patient. Mais avant ça, Wilfried Loupanot, il existe ici une question qui... j'ai oublié, ça y est.
Voilà.
Ah ben oui, ça y est, je reconnais ce son. La pop culture. Voilà, oui, ça y est, j'y suis. Alors, pour vous, c'est quoi la pop culture? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses paracuellantes, faramineuses, extra-polybarrées, fantasgotiriques. Et parmi mes préférées, il y a celle de... Mais merde, comment il s'appelle encore celui-là? Celui qui a fait des Monty Python, Charline, aidez-moi.
Terry Gilliam?
Ah ben oui, voilà, le doyen de l'émission.
I suppose about pop culture, it is not elite.
Pop culture, en tout cas, ça n'a rien à voir avec l'élite. C'est pas intellectuel. C'est les tripes. Ça vient des tripes. Et c'est ce que j'aime. Et ça peut aussi apprendre plein de choses. Et tout comme ça peut aussi baisser le niveau.
Mm-hmm. Voilà pour Terry Gilliam et vous.
Ah, c'est vrai, je suis pas loin. Je m'étais dit que ça ressemblait la pop culture à une espèce de manifestation spontanée de à la fois de l'intelligence humaine collective et de la connerie humaine collective et que c'est ce mélange des deux totalement assumé et spontané qui fait que c'est réjouissant. Ce que j'aime bien moi dans la pop culture, c'est que personne ne choisit d'y entrer. Ça mijote en fait, tout le monde est là à produire des choses et quand ça mijote, et ben de temps en temps ça fait plop plop plop. Tiens d'ailleurs, ça aurait pu s'appeler plop plop plop, plop l'émission, pourquoi pas.
Rebaptisons l'émission plop plop plop.
Plop 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 et de temps en temps quelque chose émerge et ce truc là ça devient pop et on est tous contents d'y être quand on y est et celui qui veut absolument y être la plupart du temps, il y sera pas.
Il y arrive pas. Voilà. Très bien, c'est bien fait pour lui. Merci Wilfried Loupanot, on va parler donc de pop, de culture et de plop culture dans la suite de plop plop plop, juste après Super Chérie, le tout nouveau morceau de Mathieu Chédid.
Super chérie.
toujours elle-même. C'est bien pour ça que je l'aime.
Super j'ai, super j'ai.
Tellement addict que je suis accro. Accroché à ses ailes, je suis pas beau.
Super chérie, morceau signé M, produit par Thomas Bangalter des Daft Punk. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui en compagnie de celui qui redonne une dignité à nos petits vieux. Mais qui est-il ? Réponse avec son pop portrait. Alors votre pop portrait, Wilfried, c'est votre portrait bien sûr, mais... Et c'est signé Charline...
Go ?
Oui.
Go. Aujourd'hui, nous recevons un homme qui fait plus pour les personnes âgées qu'un ministère tout entier. Enfin, faut dire que sans rien enlever à votre talent, Wilfried, hein, ça fait pas trop de mal. Bon, enfin bon. Avec les vieux fourneaux, vous rendez leurs insignes honorifiques à une catégorie souvent oubliée ou mal aimée, sauf au Groland, terre d'accueil du grand et bel âge, les vieux. Et question karma, c'est plutôt chouette parce que, un, on y arrivera tous, si ce n'est déjà fait. Enfin, je... Bref. Deux, ça fait la balance avec les auteurs qui rendent invisibles les femmes de plus de 50 ans. Pig. De la BD punk, humaniste, engagée, malgré un col du fémur fragile. Engagée, vos histoires le sont, depuis Alim le Tanner, déjà un hors-caste. Azimut, une histoire de héros qui ne se résigne pas. Célestin Gobe-la-Lune, héros rêveur qui veut changer de rang. Ou encore l'homme qui n'aimait pas les armes à feu. Et même par le prisme des guerres napoléoniennes avec le singe de Hartlepool. Ou alors quand vous vous lancez dans la rurale fantasy avec Trakmaj. Ou encore aussi quand vous naviguez dans un océan d'amour. L'humanisme et l'engagement sont toujours présents. On est donc très content de causer vieux pot, meilleure soupe et s'il le faut, bas de contention avec Wilfried Lupano.
Bas de contention.
Ouais, si on doit aller jusque-là, allez-y.
Bon.
Nous irons peut-être jusque-là. Wilfried Lupano, vous avez conscience d'en avoir plus fait pour les personnes âgées qu'un ministère tout entier ou pas ?
Je sais pas, je comme vous venez de dire, c'est pas forcément très difficile. En tout cas, nous c'est avec Paul Coé, le dessinateur de la série, c'est un objectif qu'on avait de vraiment d'essayer de donner un espace de liberté et de jeu et ouais. de mettre un coup de projecteur sur cet âge-là qui nous paraissait avoir changé par rapport à la façon dont il était utilisé la plupart du temps dans les médias, surtout dans la BD par exemple, et de manière générale dans les œuvres comiques, on avait l'impression qu'en général le vieux on riait dans les œuvres comiques assez dépens, parce qu'il entend plus, parce qu'il a perdu la boule, etc. Ouais. Et on avait l'impression que c'était plus trop d'actualité parce que on vit en meilleure santé, plus âgés, et que on avait nous envie d'apporter une autre façon de faire de la comédie avec cet âge-là, quoi.
Vous l'avez réussi admirablement. On va en reparler dans quelques instants. Allons-nous parler dans cette émission spéciale vieux d'arabesque de Derrick ou de Franck Michael? Pour le savoir, passons à la pop list. Hop. Nous vous avons demandé, Wilfried, de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Pour le livre, vous avez choisi Les Voyages de Gulliver, écrit par Jonathan Swift. C'est paru en 1726. Charline, plutôt Lilliput ou Brodingnag?
Plutôt la puta, cette île volante. Un voyage en quatre parties, à la première personne, et surtout une satire sociale et politique, le crack de 1720 ayant inspiré à Swift l'idée des changements de taille de son personnage principal.
Bien. Wilfried, auriez-vous l'amabilité de nous en lire un extrait? Vous avez deux possibilités devant vous, je vous en laisse le choix.
On va tenter le deuxième. Hein. Ils sont tous les deux tirés de son arrivée sur l'île de Lilliput, me semble-t-il. Bientôt, je sentis remuer quelque chose sur ma jambe gauche. Et cette chose, avançant doucement sur ma poitrine, montait presque jusqu'à mon menton. Quel fut mon étonnement lorsque j'aperçus une petite figure de créature humaine, haute tout au plus de 6 pouces, un arc et une flèche à la main, avec un carquois sur le dos. J'en vis en même temps au moins 40 autres de la même espèce. Je me mis soudain à jeter des cris si horribles que tous ces petits animaux se retirèrent transis de peur.
Bien. Wilfried Dupanot, est-ce que vous êtes inconditionnel de Jonathan Swift ou bien c'est en particulier les Voyages de Gulliver? Je parle de Swift qui était un satiriste, un esprit très, très caustique.
Alors, de manière générale, j'adore Swift et justement son côté irrévérencieux, et je trouve que c'est un des écrivains les plus punks qu'on ait pu avoir. À une époque où justement, on pouvait perdre la tête de ce qu'on écrivait. La preuve, c'est que quand il a écrit Les Voyages de Gulliver, il a été condamné à mort. C'est une époque avec laquelle on rigolait pas trop, avec le roi et sa personne. Il s'était quand même moqué d'à peu près toute la haute société dans Les Voyages de Gulliver, et ça a failli lui coûter la vie. Et la légende dit que c'est la reine qui, ayant plutôt rigolé à la lecture du livre, a convaincu le roi de commuer la condamnation à mort en exil. Donc il a dû quitter l'Angleterre, mais il s'est pas fait buter, ce qui est déjà réjouissant. Il a pu écrire d'autres conneries par la suite.
Et notamment cette modeste proposition au moment de la famine en Irlande.
Voilà, suggérer aux Irlandais de manger leurs enfants et y suggérer des recettes d'accompagnement. Mais de manière générale, il s'est toujours occupé de ce sujet. Par exemple, l'île de la Puta qui est mentionnée dans un des voyages, donc qui a inspiré le château dans le ciel à Miyazaki aussi, représente l'Angleterre qui affame l'Irlande en se plaçant au-dessus et donc en privant n'importe quelle terre de lumière et de pluie et en les raquettant.
Voilà. Bon, vous aimez Jonathan Swift,
j'adore.
Ça c'est fait. Passons au film, et ce film c'est Mad Max 2, réalisé par George Miller.
Ouais, j'ai fait pop là. Hein.
Sorti en 82. Charline, pourquoi le 2?
C'est un film qui est sous-titré Le Défi. Pourquoi le 2? Je ne sais pas. Demandons plutôt à Wilfried. Mais en fait, c'est celui dans lequel Mark Rokatansky, ce grand fou, est d'une communauté qui exploite une réserve de pétrole et doit se défendre contre une bande de pillards.
This is what it has come to.
Look! Out there! They're coming back! Come on! Move it!
Give me the pump! The gasoline! The whole compound!
This is a land that prays for a hero. Max.
It's a long time since I've seen driving like that, man.
The warrior of the road. Mad Max 2.
Vous aimez Mad Max, Wilfried Lupano, pour les mêmes raisons que Charline, à savoir Mel Gibson?
Alors, pas du tout. pourquoi ce film? Parce que quand il est sorti, en fait, c'est vraiment un choc pour ma génération. C'est la première fois qu'on voyait en image le monde d'après. C'est devenu un genre après le post-apocalyptique, etc. Mais c'est le premier film à montrer ça, le monde après le crack énergétique, etc. Et quand on regarde le film aujourd'hui, c'est-à-dire une bande de vieux blancs, de vieux hommes blancs arc-boutés autour d'une citerne de kérosène, avec leurs arcs et leurs flèches prêts à crever pour essayer de conserver leur essence, c'est un portrait du monde qui ne vieillit pas trop, je trouve, et qui est assez intéressant à regarder. J'ai beaucoup hésité avec La Grande Vadrouille, hein, parce que si on veut bien parler de film culte, et celui que j'ai vu le plus de fois dans ma vie et que je pense que je re-regarderai la prochaine fois, ça reste La Grande Vadrouille. Et du coup, j'en suis venu à me dire que finalement, j'aurais préféré que ce soit De Funès qui ait le rôle dans Mad Max 2, parce que justement, j'adore pas Mel Gibson.
Et De Funès, ça
aurait été différent, ouais. Mais De Funès, dans Les Poursuites en bagnole, il a toujours été très bon, ouais. Par exemple. Si vous...
Charlie aurait été très déçu.
Voilà, bon, alors je ne sais pas.
Bien, Wilfried Lupano, pour la série, vous avez choisi Chapeau melon et bottes de cuir, diffusée à partir de 67 en France et créée par Sidney Newman et Leonard White. Charline, vous adorez les bottes de cuir.
Oui, les chapeaux melons aussi. Ce sont les aventures de John Steed et ses multiples partenaires professionnels, j'entends, des agents secrets trop classés et sapés comme jamais.
Alors Wilfried Lupano, racontez-moi cette passion. Pourquoi chapeau melon, bottes de cuir?
Bon, déjà pour vous montrer, oui, à quel point je suis au point sur les séries télé.
Ouais.
Hein.
Ça, oui, elle date de 67.
Vraiment, j'ai un tuel game, ouais. Hein, ouais. Vraiment. C'est le truc qui n'est pas passé à la télé depuis une éternité.
Vous ne regardez plus la télé, en fait.
C'est un peu ça. Je sais pas, c'est une série que j'ai adoré regarder quand j'étais gamin. Et comme j'ai fait une petite BD parodique là-dessus il y a quelques années pour un collectif, je m'étais retapé une grosse partie de la série en coffret. J'adore. Il y a une très très grande économie de moyens. Il n'y avait pas un rond. On arrivait à faire croire dans cette série qu'ils sauvaient le monde à chaque épisode, et il n'y avait jamais que eux à l'écran. Il n'y avait jamais de même quand ils combattaient l'armée des ombres. On entendait l'armée des ombres marcher dans les couloirs hors champ, mais il n'y avait pas d'argent pour les figurants. Donc en fait, il y avait une place pour l'imaginaire qui était incroyable. Et puis c'est tout ce qu'on aime bien dans le kitsch anglais. Voilà, cher à nos cœurs, quoi.
Très bien. Bah, écoutez, votre pop list est presque complète. Il me manque juste une chanson, et cette chanson, c'est celle-ci. Gabi, oh Gabi, Bachung, sorti en 79 sur l'album Roulette Russe. Une passion particulière pour ce Bachung de cette période-là, Tout Bachung?
Tout Bachung, déjà, c'est un peu mon chanteur fétiche, culte. Il s'avère que moi, j'ai grandi dans les bistrots. Mes parents tenaient des bars, en particulier en 79, et que ça passait au jukebox. À l'époque, on mettait des sous dans des machines. Les gens regarderont, googleront ça pour voir à quoi ça ressemblait. Ça passait de manière comme ça, aléatoire. Les gens mettaient ça. Cette chanson m'a toujours habité. Donc, elle est sortie quand j'avais 8 ans. J'entendais ça au bar. Et j'essayais de trouver un sens à ces paroles complètement dingues et à la voix complètement envoûtante de Bachung. J'ai jamais arrêté d'écouter cette chanson.
Vous avez trouvé le sens ?
Non.
Et du coup, à quoi ça sert, les frites ?
Quand on n'a pas les moules, c'est une question qui reste posée.
Ouais. Ouais. Il nous reste 3 quarts d'heure pour essayer d'y répondre. Je résume Les Voyages de Gulliver, Mad Max 2, Chapeau melon, bottes de cuir, Alain Bachung. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture. Et ça donne ça. Oh, Gabby, this is what it has come to.
Je sentis remuer quelque chose sur ma jambe gauche. J'en vis en même temps au moins 40 autres de la même espèce.
The warrior of the road. Mad Max 2.
Le remix de pop culture de Wilfried Lupano.
C'est inquiétant.
Satisfait ou remboursé?
Non, satisfait.
C'est encore le choix. Bien, Wilfried Lupano, avant de parler de la dernière BD des vieux fourneaux, écoutons un morceau d'Eddie Mitchell présent au casting du film adapté de votre BD. Le titre, Sonny.
Le ciel est plus clair, il y a du soleil sur les murs, sur les toits. Le printemps est venu avec toi. Et tu m'aimes toujours. moi. Le soleil, lui, j'ai eu des mauvais jours dans le vent et la pluie. Oh, j'avais si peur que tu m'oublies. Mais tu m'aimes toujours, oh, sois mon amour.
Ah oui, je t'aime toujours, Sonny. C'est Eddie Mitchell dans Pop, Pop, Pop. Tiens, un meilleur adjectif pour définir Eddie Mitchell dans Les Vieux Fourneaux que vous avez adapté sur grand écran, Wilfried Dupano. Comment est-ce que vous définiriez Eddie Mitchell?
Flegmatique.
Flegmatique. Mmh. Échafouin.
Mélange. Oui, il est bougon. Il est bougon. Hein.
Il est bougon. Ouais, ouais. Bien, pour rester dans la chanson, rappelons que c'est dans une chanson de Georges Brassens que vous avez trouvé le titre de votre BD. Souvenez-vous.
Tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons.
Absolument.
Tous les vieux fourneaux prennent les genoux pour des cons.
Mais oui, hein, quelle belle image.
Quelle belle image. Mmh. Alors on parle donc du tout dernier tome des vieux fourneaux, Bon pour l'asile. Vous allez vous sentir très bien chez nous, vous allez voir, Wilfried. Ce cinquième tome, Bon pour l'asile, c'est l'histoire d'Antoine, Mimile et Juliette qui ont un plan simple, ramener Juliette auprès de sa mère pour filer au Stade de France, assister au match de rugby France-Australie. Mais, je vous laisse continuer, Wilfried.
Oui, ben ça va pas se passer exactement comme ça, parce que Antoine tombe dans un traquenard tendu par sa fille, sa petite fille Sophie, pour qu'il retrouve son fils avec qui ils se sont pas parlé depuis très longtemps. Et Mimile, lui, de son côté, cherche son pote Pierrot pour essayer de l'amener au stade, mais Pierrot a autre chose à faire dans la vie, puisque nous sommes frappés par une crise migratoire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, et que Pierrot a plutôt des priorités de ce côté-là.
Le troisième âge n'est pas souvent celui auquel on donne le plus souvent la parole sur les sujets sociaux. Alors pourquoi choisir d'inscrire, vous, les vôtres, dans une réalité sociale très très actuelle?
Ben parce que je crois que c'est vachement la réalité. Quand on regarde un petit peu, par exemple en France, le tissu associatif, il est à 60 ou 70% tenu à bout de bras par des personnes qui sont retraitées, que la notion d'inactif n'a pas grand sens. Ce sont des gens, la plupart du temps, qui restent très actifs dans la société. Je crois que ça, ne serait-ce que sur les heures de garde des enfants et des petits-enfants, je crois que ça représente 23 ou 30 millions d'heures chaque année en France faites par les grands-parents et donc non rémunérées, etc. Les assos en France et pas mal d'ONG ne tiendraient pas une seconde sans les personnes âgées. Donc c'est juste du bon sens que de dire si on parle d'engagement aujourd'hui, on peut le prendre par ce biais-là. C'est pas forcément un truc de jeune, etc. Ça serait hypocrite de dire ça.
Mais pour ce qui est de la prise de parole, qu'est-ce que ces vieux fourneaux vous permettent de dire qu'une bande de jeunes cons ne saurait libeller?
Ben, ça permet de... Ils ont déroulé du câble, quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, ils viennent de périodes où les problématiques étaient différentes. Moi, ce que j'aime bien, ce qu'on a décidé de faire, nous, c'est le portrait d'une génération qui a aussi fait des conneries. C'est pas des vieux sages. C'est pas des gens qui ont compris tout avant les autres, qui étaient déjà avant-gardistes sur plein de sujets, etc. On n'arrête pas de les écorner album après album. On montre à quel point ils ont pu merder à tel ou tel moment de leur vie. Voilà, dans un tome, Mimile vient nous parler de ce qui s'est passé sur l'île de Nauru, qui a été complètement dévastée par le capitalisme galopant des années 70-80. Et puis finalement, on apprend que lui-même, il leur vendait des voitures décapotables, alors que c'est une île qui est grande comme trois terrains de foot. Donc c'est ça qui nous intéresse, en fait, c'est de montrer...
C'est pas d'en faire des super-héros.
Non, c'est tout sauf des super-héros. Mmh. Ce sont des gens qui ont fait des conneries, comme tout le monde, étaient les victimes de leur époque, comme tout le monde. Et ils essaient de s'améliorer, par contre, ce qui est déjà pas mal.
Pas comme tout le monde.
Voilà, de vivre avec, de composer avec les jeunes qu'ils ont été. Parfois en essayant d'oublier un peu les jeunes qu'ils ont été, parfois en se reniant un peu aussi. Enfin bref, ils sont humains, quoi.
C'est sans doute ce qui explique le phénomène que c'est devenu les vieux fourneaux, parce que avec près de 2 millions d'exemplaires vendus, un phénomène qui s'est confirmé au cinéma avec près d'un million de spectateurs pour l'adaptation, est-ce que vous éprouvez le sentiment d'une douce revanche, sachant qu'au départ, le monde de l'édition était plutôt réservé à l'idée d'avoir une bande de vieux pour héros?
Oui, c'est toujours agréable, c'est sûr. C'est sûr que si on... Mais c'est ce que je disais tout à l'heure sur la pop culture, c'est pas en essayant d'en faire partie que ça peut arriver. La seule solution pour y arriver, c'est ça de faire des propositions. Je fais des bandes dessinées très très diverses, historiques, fantasmagoriques, comiques, tragiques. Je fais plein de propositions et puis de temps en temps, il y a quelque chose qui touche particulièrement les gens. C'est évidemment super réjouissant quand ça se produit. Je pense que c'est une histoire de moment, ce genre de bascule. On s'est rencontrés avec Paul Coé, le dessinateur, autour de ce projet. Enfin, on avait déjà fait une série ensemble, mais ce projet-là nous a vraiment galvanisés. On l'a fait de manière très sincère, très simple. Et son travail n'est pas pour rien non plus. Je pense qu'il a un trait qui est parfait pour raconter ce genre de choses. C'est tout sauf spectaculaire, le travail de Paul Coé. Mais il a une narration parfaite, très... très séduisante, très accessible à tout le monde. Même l'une des particularités de cette série, c'est qu'elle est notamment lue par plein de gens qui lisent pas trop de bandes dessinées et qui aiment bien les vieux fourneaux. Et qui, dans le dessin de Paul Coé, ils retrouvent l'essentiel de ce qu'ils ont besoin de comprendre, l'émotion qu'ils ont besoin d'avoir. Et c'est un plaisir de travailler avec lui.
On parlait tout à l'heure du Groland, cette terre d'accueil pour personnes âgées, un pays dans lequel est-ce que vous aussi vous vous retrouvez? Vous avez quelques points communs dans le discours, notamment.
Bien sûr, bien sûr. Groland, d'ailleurs, il faut leur rendre cet hommage. C'était les premiers, véritablement, à remettre les vieux comme ça en avant, comme des potentiels agitateurs. Voilà, donc je me sens d'autant plus en proximité que Jules-Édouard Moustique est du Pays Basque, pas très loin de chez moi.
Pau.
Exactement, et qu'il filmait pas mal de ses... Il puisait pas mal de ses idées dans un bar du petit Bayonne qui s'appelle Le Clou, que je connais par ailleurs, et dont je salue les occupants.
Wilfried Lipano, d'où vient cet intérêt pour les seniors? Est-ce que vous avez eu des exemples parmi vos proches? Je sais pas, moi, un pépé méchant, une vieille grand-mère indigne, je sais pas.
Alors, étonnamment, non, pas trop. J'ai eu une grand-mère à problème quand même, mais pas de grand-père, par exemple. Ma mère était de père inconnu et mon grand-père paternel est mort quand j'avais 2 ans, je crois. Donc, j'ai grandi sans grand-père. Peut-être que c'est justement là une espèce de fantasme. Par contre, j'ai beaucoup fréquenté les bistrots que tenaient mes parents. D'abord quand j'étais enfant, et puis j'ai moi-même ensuite bossé 15 ans dans les bars, et j'en ai vu de très chouettes. J'avais des clients qui avaient 80 balais et qui avaient des histoires incroyables à raconter, et j'aimais beaucoup ça. Et puis surtout quand on a mis en place cette série avec Paul, il y avait des gens comme Stéphane Hessel, Edgar Morin, Michel Serres, qui tenaient l'actu à ce moment-là. Et qui donnait un peu des leçons d'agitation et de modernité dans les idées. Michel Serres venait de publier Petite Poussette, qui était un livre donc qui disait mais cette génération de jeunes qui sont tout le temps sur leur téléphone, faut pas en avoir peur, c'est super, c'est une nouvelle manifestation de l'intelligence collective. Et ça venait d'un mec qui avait plus de 80 balais et voilà. Et ça nous faisait plutôt, ça forçait notre admiration, quoi. Donc c'est venu assez naturellement.
Dans le film, enfin l'adaptation au cinéma du Vieux Fourneau, on entend une réplique sur le rapport passionnant entre les vieux et les réseaux sociaux, puisque vous en parlez. Écoutez.
Attends, toi, je fais une photo, je vais la tweet.
Il a pas un Twitter, un mot qu'il emploie parce qu'il a lu dans la presse.
C'est un rapport qui vous passionne aussi. Vous avez Twister, par exemple, vous?
Oui, alors moi j'ai Twister, mais j'étais surtout fasciné par, par exemple, les tentatives que faisait ma mère pour systématiquement essayer d'apprendre tout le vocabulaire qui était lié aux nouvelles technologies et qui ressortait effectivement avec un succès certain, mais jamais au bon moment. Donc elle employait toujours une appellation pour une autre, voilà, dans un chaos sémantique absolument total. Donc c'était, voilà, c'est source de comique, évidemment. Je trouve que c'est l'un des défis pour cette génération. Donc là, on parle de gens qui sont nés avant la guerre, donc ils sont nés quand on labourait les champs avec des vaches et des charrues, et qui, 80 ans plus tard, sont confrontés à Internet au débit, on passe son doigt sur une vitre, etc. C'est la seule génération dans l'histoire de l'humanité qui s'est mangé un choc technologique aussi important, et ils essaient de faire face. Ils consomment des nouvelles technologies, ils sont là, on leur offre des téléphones, des ordinateurs, des tablettes, etc. C'est juste fou à vivre, quoi. Donc, qu'il y ait des moments, il y a des petits,
sorties des petits de bugs, route,
ça, c'est plutôt marrant.
Mais ceci étant, l'image change aussi dans les fictions, puisqu'on voit quand même depuis quelques années déferler, enfin, déambuler pour être plus précise, une vague vieux au ciné, que ce soit chez Sorrentino avec un film comme Youth, ou dans les blockbusters avec les Expendables, ou en série avec par exemple la méthode Kominsky. Le troisième âge, ça devient le nouvel Eldorado. Peut-être avez-vous lancé quelque chose?
Je sais pas si je l'ai lancé,
ça,
hein, d'ailleurs.
Ça me ferait très plaisir.
Dit le mec qui reste tout le temps jeune.
Mais non, non, mais oui, il vieillit pas.
C'est ça. Ouais. Alors, est-ce que, parce qu'il y a toujours un effet Dorian Gray chez les gens qui ne vieillissent pas comme ça. Est-ce que dans votre cas,
vous voulez aller voir mon grenier?
Est-ce que c'est d'emmerder José Garcia qui fait le maintenir jeune? Parce que si c'est le cas, je veux bien son numéro.
Je vous le donne avec plaisir.
Non, 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 non,
42. Vous l'avez noté?
Très bien, merci beaucoup.
Lequel des trois héros septuagénaires des vieux fourneaux, Mimile, Pierrot et Antoine, a-t-il votre préférence? Évidemment, j'aimerais que ce soit Antoine, mais quelque chose me dit que c'est plutôt Pierrot, le vieil yanard colérique.
J'ai du mal à les dissocier, en fait. Ils fonctionnent un peu dans ma tête comme les trois facettes d'une même entité, même si je me sens assez proche, c'est vrai, souvent de Pierrot pour son côté gueulard et souvent avec une aptitude à se ridiculiser lui-même qui force mon admiration. Voilà. Et je peux me retrouver là-dedans.
Votre dernière colère, par exemple?
C'est tellement souvent que quand on en cherche une, c'était ce week-end contre le système de santé. J'ai un gamin malade et impossible de faire venir un toubib, ni SOS médecin, ni le SAMU, etc. Et c'était pas leur faute, les pauvres, ils sont juste débordés. Mais ça m'a foutu dans une colère invraisemblable.
C'est une BD, Les Vieux Fourneaux, qui sort en même temps, c'est un hasard, avec le dernier livre de Yann Moix. Que dire pour inciter les lecteurs à acheter Les Vieux Fourneaux plutôt que le livre de Yann Moix? Parce que lui, les vieilles fournaises, c'est pas trop son truc, manifestement.
je sais pas, il est assez peu question de les culbuter, mais les nous vieux. C'est pas vraiment la même thématique, hein. Lui, il est vraiment... Il est vraiment sur ce sujet-là, j'ai eu l'impression. Je sais pas. Moi, j'ai trouvé que cette polémique est... Est-ce qu'on s'en fout pas un peu de Yann Moix?
Totalement. C'était juste pour vous amuser.
Ouais, non. Moi, il me fait un peu de la peine.
Les Vieux Fourneaux, le tome 5, Wilfried Lupano, qui en est le scénariste, est avec nous aujourd'hui. Wilfried, vous savez faire ça?
Mais absolument.
Il sait le faire, vous êtes entraîné?
Non, même pas.
Vous vous êtes entraîné?
Pas du tout.
Si, je sais.
À aucun moment. On m'a dit de m'entraîner.
Ben oui,
mais j'ai refusé.
Alors. Bon, de toute façon, c'est pour lancer les pop news.
Et roulement de tambour! Voici les 5 bandes dessinées finalistes, toujours en lice pour la première édition du prix BD Fnac France Inter. 5 albums sélectionnés par les 30 membres du jury, grand public du prix, et parmi les 20 coups de cœur de l'année 2018. Ces 5 finalistes sont donc Moi, ce que j'aime, c'est les monstres d'Émile Ferris, L'âge d'or de Roxane Morey et Cyril Pedrosa, 5 branches de coton noir de Cusor et Sainté, Malaterre de Pierre-Henri Gaumont et Il faut flinguer Ramirez de Nicolas Pétrimot. Le vainqueur sera révélé le 16 janvier en direct dans Pop 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 par le parrain et président du jury.
Antoine Decaune sur France Inter.
Attention, annonce de la plus haute importance et exclusivité. Pop, pop, pop. Voici
le casting. Du proche. Wes Anderson. The French Dispatch, actuellement en tournage du côté d'Angoulême, justement, bénéficiera de la présence de Benicio del Toro, Bill Murray, Owen Wilson, Frances McDormand, Adrien Brody, Léa Seydoux, Timothée Chalamet, Saoirse Ronan, Willem Dafoe, Lina Koudry et lui. Mais oui, Henry Winkler, un casting cool comme Fonzie.
Quand un assassin s'aperçoit qu'il est la cible d'un meurtrier, il reprend du service pour affronter une armée de tueurs plus jeunes et plus impitoyables que lui. Ceci est le pitch du film bien testostéroné intitulé Polar, adapté du roman graphique éponyme dans lequel nous verrons bientôt un acteur à pommettes tellement saillantes qu'on pourrait s'y couper. Matt Mikkelsen, ambiance. You make mistakes when you're afraid. Thought you stopped smoking. Figured it wouldn't kill me. Ça s'appelle donc Polar, c'est Jonas Åkerlund, c'est avec Mads Mikkelsen, Vanessa Hudgens et Johnny Knoxville, oui, celui-là même de Jackass, et ce sera le 25 janvier sur Netflix.
France Inter. Pop-pop. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
C'est une tentative d'imitation de Mads Mikkelsen.
Exactement.
C'est pas mal, c'est pas mal, je trouve.
Très, très réussi.
Montrez les pommettes.
De manière générale, si on parlait tous un peu comme ça, ça apporterait un goût testostéroné à cette émission.
Mais je crois que ça me ferait mal à la gorge.
C'est possible.
Essayez, Charline.
Laissons tomber.
On continue à parler des vieux dans la suite de Pop 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 avec Fabrice Maruca, l'auteur de La Minute Vieille, juste après un morceau du chanteur néo-zélandais Marlon Williams, What's Chasing You.
What's Chasing You, c'est extrait de l'album Make Way for Love. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie de l'auteur des vieux fourneaux. Pour cette spéciale vieux, il vient de nous rejoindre le créateur et réalisateur de la série La Minute Vieille. Bonjour Fabrice Maruca.
Bonjour.
La Minute Vieille, c'est une série qui a été diffusée sur Arte pour la télé, aujourd'hui sur Internet. Alors je connaissais La Minute Blonde sur Canal, mais d'où vient l'idée de cette Minute Vieille ?
Ben, à vrai dire, en fait, je voulais me servir du vivier de blagues qu'on connaît tous, qu'on se raconte à la fin des repas, dans les communions, les mariages.
Et j'avais plein d'amis qui avaient tourné les blagues. Ils avaient filmé des gens dans des lits, dans des situations. Et je trouvais que ça marchait pas. Je trouvais qu'il fallait que les blagues soient racontées. Mmh. Et je me suis demandé quelle était la personne la moins adéquate pour ça. Et j'ai tout de suite pensé à la vieille dame. Et je me suis dit qu'il y avait moyen de faire quelque chose de très esthétique, parce que je trouve qu'une vieille, c'est vraiment beau. C'est, enfin, avec les cheveux blancs, avec les vêtements.
Vous êtes gérontophile, quoi.
On peut dire ça, même si, ouais. Je voulais pas le dire tout de suite, mais... Et donc, l'idée, c'était de donner aussi du rythme pour que les vieilles dames paraissent plus vives que ce qu'elles sont d'habitude, parce que la plupart du temps, dans les films, comme vous l'avez dit, elles sont plutôt utilisées parce que elles sont lentes, elles sont gaga, sourdes. Et là, je voulais vraiment donner du rythme.
Ouais.
Elles sont vives, elles sont rigolotes, mais est-ce qu'il y a quelque chose de jouissif à faire dire des insanités, parce que c'est parfois le cas, à des dames âgées ?
Des insanités, oui, il y en a quelques-unes quand même.
Oh, il y a quelques blagues quand même.
Moi, j'aime bien, ouais. Ouais, ça me plaît. Ouais. Ouais. Donc, je sais, il faudrait que je me fasse psychanalyser, parce que je ne sais pas d'où vient moi.
Attendez, je voudrais juste qu'on étaye quand même cette accusation. Et écoutons un extrait.
Ça se passe dans un bus, un jour de semaine, vers 18h.
Oui, en pleine heure de pointe, il y a beaucoup de monde dans le bus.
Plein de gens sont debout.
Il y a un jeune qui monte, il a un blouson de cuir et il mange un chewing-gum.
Il regarde tout le monde méchamment, on dirait qu'il prépare quelque chose.
Le chauffeur le surveille dans le rétro, il l'a remarqué.
Alors tout en conduisant, il surveille discrètement.
Et tout d'un coup, ça rate pas, le jeune gueule.
Tous ceux qui sont à l'avant du bus sont des petites bêtes.
Et il se retourne vers l'arrière et il gueule.
Et vous à l'arrière, vous êtes tous des suceurs de queue.
Tout le monde commence à élever la voix, c'est incroyable d'entendre ça.
Même si c'est peut-être vrai pour certains.
Alors le jeune n'a pas peur, venez, bande de petites bites et de suceurs de queue.
Il gueule au chauffeur, oui, toi aussi là-bas.
Le chauffeur pète un câble, direct. Il freine d'un coup sec, mais tellement sec que l'arrêt est brutal.
Tout le monde est projeté vers l'avant, les gens tombent de leur siège, c'est un bordel monstre.
Le chauffeur se lève, il s'approche du jeune qui se tient droit, il attend, il a toujours pas peur. Il est à 5 cm de lui.
Répète un peu pour voir qui sont les petites bites et les suceurs de queue.
Le jeune regarde les gens autour de lui. Bah alors là, ça va pas être simple, hein. Tout est mélangé maintenant.
Eh ben, c'est du propre.
Ouais, c'est pas la ligne des plus douces.
Fabrice Maruca, ça marche très bien en radio.
Oui. J'ai remarqué ça. C'est passé un moment sur Rire et Chanson et oui, ça passe bien. Ouais.
C'est quoi la pire punchline entendue dans La Minute Vieille?
C'est ce qui est imagé, je trouve. Ce qu'on imagine visuellement. Par exemple, il y avait une blague de 3 lignes. À la base, je voulais qu'il y ait une blague de 10 secondes à la fin de chaque épisode. Et il y en a une que j'ai tournée dans le pilote. Qui est jamais passé, c'est vous devez la connaître, c'est un mec qui aime bien Brigitte Bardot, alors sa femme pour lui plaire se fait tatouer B sur chaque fesse.
Oui.
Et le soir elle lui montre et lui il dit c'est qui Bob. Et en fait moi je ça me fait rire, mais voir l'image, ça me fait moins rire.
Ça passe très bien en radio, alors qu'à l'image, c'est plus difficile.
À l'image, ça se discute plus.
Bon. Ça passe très bien en radio.
La Minute Vieille affiche une ligne éditoriale claire, hein, que ce soit drôle mais jamais vulgaire. Comment ne franchit-on jamais la ligne jaune?
Mais déjà, il y a des mots qu'on s'interdit. Hein. Dans le pilote, vous avez passé un petit bout tout à l'heure, il y a le mot enculé. J'ai pas le droit de le dire à l'antenne sur Arte, mais c'est même pas que j'ai pas le droit.
On est sur Inter.
Oui. C'est même pas que j'ai pas le droit de le dire. Je trouve que il y a peut-être pas besoin de ça. Il y a peut-être pas besoin d'aller à fond. Donc oui, on dit baise, mais on dit pas. Enfin, on est assez. C'est plutôt imagé dans le dialogue que dit cru en fait. Voilà.
À quoi ça ressemblait un comité de lecture des scénarios avec les comédiennes?
Déjà, il faut savoir que les comédiennes n'apprennent pas le texte parce que, avec leur grand âge, elles ont du mal. Et donc, c'est moi qui donne la phrase et elles le répètent. Toute la journée, je fais ça.
Elles devaient être horrifiées.
Comment?
Elles devaient être horrifiées.
Quelquefois, j'en rajoutais. Elles avaient oublié que ça n'était pas dedans parce qu'elles l'avaient lu, mais comme elles oublient, et voilà. Et donc, j'ai jamais eu un seul refus. Jamais, jamais.
Mais alors justement, comment vous avez fait votre casting?
Ah ben, le casting des...
Et comment il était libellé surtout, en fait?
Libellé?
Cherche dames âgées pour dire au revoir à la télé.
Oui, mais j'ai vu quasiment toutes les dames âgées de Paris comédiennes. Ouais. Hein, j'en ai vu plus d'une cinquantaine pour en trouver 4.
Vous avez essuyé des refus?
Oui, quelques-uns quand même. Mais dans l'ensemble, on a trouvé ce qu'on cherchait. On cherchait vraiment des types. On cherchait une mamie, entre guillemets, prolo HLM. Une mamie bourgeoise 16e Neuilly. Une mamie Cato et une mamie, on savait pas trop, mais on cherchait une quatrième truc. On a trouvé Nel Raymond, qui était génial, qui était un peu Disas de Bonaventure. Ouais. Vraiment, on a vraiment bien bossé sur le casting avec les gens qui étaient avec moi.
Alors, comme dans chaque grosse série, il y a des guests. Hein. On a vu ainsi apparaître Anémone, Michel Galabru, Guy Roux, Enrico Macias ou Guy Marchand. Écoutez.
Le moniteur descend du bus, mais il comprend pas.
Là, le gamin se met contre un arbre et lui dit
« Je peux pas pisser si on chante pas une chanson ».
Le moniteur sait pas quoi faire. Il se retourne vers la monitrice qui lui demande de chanter.
Alors il commence à chanter.
« Ah, qu'elles sont jolies, les filles de mon pays. La, 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 la. »
Ah non, une autre, celle-là, elle me fait chier.
Toujours dans des bus ou quoi?
C'est vrai que je remarque, mais je viens de la province, il n'y avait pas de métro là-bas.
Comment avez-vous fait pour les convaincre? Parce que des acteurs comme, je sais pas, les Mathias, les Guy Marchand et compagnie.
Bah, c'est pas si évident. Honnêtement, on a beaucoup de refus. Hein. Il y en a qui ont de l'humour et après, ils choisissent leurs blagues par contre. Et c'est souvent des blagues moins crues que les blagues des mamies, entre guillemets, classiques.
Et comment dirige-t-on des seniors?
Ben, de la même manière, en fait, pour avoir du rythme, je leur ai vendu que je faisais la même technique que pour les mamies normales, c'est-à-dire dire le texte. Et par contre, comme ce sont des comédiens aguerris, la plupart du temps, ils improvisent un peu et ça va très bien.
Vous êtes scénariste et souffleur, en quelque sorte. Ouais.
Fabrice Maruca, vous avez également réalisé des clips pour Amel Bent ou la chanteuse Anaïs. Vous pourriez réaliser le prochain clip de Franck Michael?
Pas le dernier, ça.
Hein.
Je vois que monsieur est connaisseur.
Ben, ce sera un plaisir de jouer sur le contre-pied de tout ça. Ouais.
Franck, si tu nous entends. Je dis Franck, si tu nous entends.
Comment?
Ok, on a un réalisateur pour le clip. Merci Fabrice Maruca. J'aimerais passer de Franck Michael à John Lee Hooker. Alors pour ça, je vais aller chercher le dernier vinyle de l'émission à la cave. Allons-y. L'air du large. Mais vous êtes qui, vous?
Je suis qui? Je suis le père Fouras, voyons. Vous ne voyez pas Antoine?
Si, mais qu'est-ce que vous faites dans ma cave?
Oh, mais je ne suis pas dans votre cave. C'est vous qui êtes dans mon fort. Mm-hmm. Enfin, bon, ce n'est pas la question. Vous faites une spéciale vieux, alors oui. J'en profite pour m'incruster dans votre émission. Puisque vous avez parlé de moi hier avec le petit...
De Dienne, c'est ça.
Ben, au début, c'était élogieux, ça me plaisait, j'étais content. Mm-hmm. De Dienne a dit qu'il m'avait écrit quand il était tout petit. J'en ai rien à foutre. Mm-hmm. Mais c'était mignon. Mais après, vous êtes foutu de ma gueule en me disant que le père Fouras, c'était un comédien.
Bah, c'est la vérité.
Ta gueule! Alors, tiens, je me fais chier tout seul comme un gland dans mon fort à vider des cubis de pinot pour passer le temps. Alors, si on pouvait éviter de dire aux enfants que je suis un comédien, ça m'arrangerait.
D'accord. Ouais. Je passe le message. Mais attendez, je suis pas venu, moi, écouter un vieux comédien poivreau. Alors, je suis venu chercher un vinyle. Ouais, poivreau. Alors, hop, par la fenêtre. Tu vas la chercher là-bas, ton énigme. Allez. Eh ben voilà. Maintenant, on peut écouter comme prévu mon petit John Lee Hooker. Allez, tiens, ici, c'est hip, par exemple. C'est avec un coup d'œil. Alors, viens-je bien, le père Fouras?
Hey, this is hit, pretty baby. This is hit, pretty baby. This is hit, pretty baby. Now, mess around and fall in love. Call me up on your telephone. You want me to take you for a ride. This is hit, pretty baby. This is hit, pretty baby. This is hit, pretty baby. Now, mess around and fell in love. Well, you call me up on your telephone. You talk to me for a long, long time. You want me to come right over. This is hit, pretty baby. This is hit, pretty baby. This is hit, pretty baby. Now, and bust around and fell in love. Right.
Johnny Hooker, This is Hip dans Pop 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 sur France Inter. C'est un morceau signé Johnny Hooker, accompagné de Ray Cooder qui a aussi produit cet album que je vous recommande. Fabrice Marocca, Wilfried Lupano, j'aimerais finir l'émission spéciale vieux avec un débat. C'est le Pop Ring. Que pensez-vous de ce chanteur senior qui utilise des techniques de Jones? Écoutez. I've been looking for love, but it gets me nowhere. Oh yeah, yeah. Paul McCartney, Popol, Macca, qui se met à l'autotune dans Get Enough, le single qu'il vient de dévoiler. À l'autotune ! Alors, qu'est-ce qu'on en dit ?
Bah là, je pense que c'est très grave. Je pense qu'une limite vient d'être franchie.
Wilfried, je suis d'accord avec vous.
Et il faudra pas venir se plaindre si Jules reprend Let It Be à la guitare.
Très bien.
Jules, oui.
Fabrice.
À quand les Français qui feront ça, genre Dick Rivers, ils pourraient le faire aussi, quoi.
Arrêtez, vous allez lui donner des idées.
J'espère, ce serait marrant.
Bon, en fait, il n'y a pas vraiment de débat. On est plutôt contre. Charline.
Complètement. Ouais.
Bon, parce que vous êtes une femme, vous n'avez pas le droit de parler.
Mais je vous remercie.
Exprimez-vous.
Ben non, mais je trouve ça pas bien du tout.
Tout. Donc voilà, unanimité.
Après, peut-être que le contexte nous échappe. Peut-être que quelqu'un a appuyé sur le bouton de l'autotune sans faire exprès. On ne sait pas.
Ou c'est une blague, peut-être.
Peut-être que c'est une blague.
Sans le prévenir.
Merci beaucoup.
Ah, pardon. Merci à tous. Merci Wilfried Lupano. Je rappelle que le tome 5 des Vieux Fourneaux est édité chez Dargo, que le DVD du film des Vieux Fourneaux est lui aussi disponible depuis quelques jours. Merci Fabrice Marocca. Vos minutes vieilles sont à retrouver sur le site d'Arte et sur YouTube. Merci aussi à l'équipe de Pop Pop Pop. Ghislain Gratmolanus à la réalisation, à la technique. Nicolas Cazot, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef. Claire Sophie Collet et Simon Restat, nos attachés de production. Et à la programmation musicale, le Djoubaka, demain dans Pop Pop Pop, elle.
Poussez-vous !
Queen Florence Foresti sera dans ce studio. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0 ou un Yeval à pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme disent ceux qui font des tutos réglages de sonotone sur YouTube, abonnez-vous à notre podcast et suivez-nous sur les internets, comme disent les millennials, 3615, pop 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 sur Instagram et tweetez.